Économie, environnement, société, vous en êtes où sur ces sujets? Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute!
Alors, je m'appelle Françoise Vernet, je suis ravie d'animer cet échange pour plein de raisons. D'abord parce que les jeunes, ça me parle beaucoup. J'ai moi-même deux enfants qui ont 20 et 23 ans. Et forcément, tout ce qu'ils vivent me touche de près. Et je pense que vous soyez parents, grands-parents, oncles, cousins, grands frères ou petites sœurs, vous vivez probablement aussi des choses assez similaires. Alors, le titre de notre échange de cet après-midi, c'est « Jeunesse, la rage de survivre ». Alors, je tiens tout d'abord à excuser Mao, qui a écrit ce très chouette livre, Mao Chaudouet-Delma, qui s'appelle « Le pouvoir jeune ». En fait, Mao est enceinte de 5 mois et on ne l'a pas autorisé à prendre le train. Voilà, donc elle est absolument désolée, elle aurait adoré être avec nous, mais elle ne pourra pas être avec nous. Et le livre d'avant qu'elle avait écrit, toujours aux éditions de l'Aube, c'est « Demain ne peut qu'être féministe ». Voilà, donc entre le politique et le féministe, je pense qu'elle nous aurait bien nourrie avec ses idées. Voilà. Et donc, à mes côtés, Maxime Olivier, activiste pour la justice sociale et climatique. Maxime a coécrit deux livres. Un premier livre qui s'appelle « Basculons dans un monde viable et vivable » avec Tanguy Descamps, qui est sorti dans la collection Cahier militant. Et il a commis un deuxième méfait au mois de février ou janvier, qui s'appelle « Vivre avec l'éco-anxiété rayée, l'éco-lucidité », voilà, qui est sorti dans la collection « Je passe à l'acte » chez Actes Sud. Et on a la chance d'avoir Bella Lack avec nous. Donc Bella, elle est militante écologiste britannique. C'est une des deux protagonistes du film « Animal » de Cyril Dion. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film. Voilà, super. On avait eu la chance d'avoir Vipulan Puvaneswaran, qui était son co-protagoniste, qui était venu il y a 2 ans à Livre en Marche. Et voilà, Bella, elle est l'autrice d'un livre qui vient de sortir dans la même collection que le premier livre de Maxime, qui s'appelle « Les enfants de l'Anthropocène ». Et avant, elle avait participé au livre qui était le premier de la collection « Cahier militant animal » avec Vipulan, justement. Et à ses côtés, on a la chance d'avoir Shabnam, qui est donc facilitatrice sur le territoire. Je ne sais plus ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, je te remercie énormément. Elle est à la fois activiste et elle fait plein de liens avec les gens du territoire et notamment avec les jeunes. Et elle a notamment organisé une projection vendredi après-midi du film avec les jeunes. Voilà, donc Bella est anglophone. C'est pour ça que Shabnam nous fait la gentillesse de faire l'interprétariat. Shabnam est à Grenoble depuis début septembre où elle vient... est à Grenoble depuis début septembre. Elle vient faire des études en France. Voilà, et on est ravis de l'accueillir. Voilà, parce que c'est une de ses premières interventions en France. Elle était venue pour le film Animal, mais elle avait fait quelques rencontres. Voilà. Alors forcément, donc je vous lis un petit peu le texte qui est écrit, que je n'ai pas écrit, mais qui est censé, être le fil rouge de notre échange. C'est inégalité, discrimination, combat. C'est assez guerrier comme terminologie. Je ne suis pas persuadée que ça va nous animer. Il faut que jeunesse se passe, entre guillemets, certes, mais certaines choses ne passent plus. Voilà. Mais avant tout, ce que j'ai envie de vous poser comme question, et on va peut-être commencer par Maxime, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait te qualifier de jeune engagé? Voilà. D'où vient cette envie aujourd'hui de donner ton temps et ton énergie pour que tu vives et que tu survives?
Bonjour à tous et à toutes, un grand merci d'être aussi nombreux et nombreuses déjà, et un gros merci à l'organisation, aux bénévoles du Festival Livre en Marche. C'est la première fois que je viens jusqu'à vous. Je suis originaire de Bretagne, donc c'est pas tout près. Voilà, je suis plutôt mer que montagne, mais bon, je me soigne, ça va. Et donc moi, je suis activiste pour la justice sociale et climatique depuis maintenant presque une dizaine d'années, en fait. Je vais pas refaire cette histoire de déclic, etc., mais en tout cas... Je sais que la démission de Nicolas Hulot fut un temps qui a quitté son poste de ministre le 28 août 2018 en direct à la radio sans prévenir le Premier ministre ni le Président de la République. Moi, ça m'avait pas mal marqué. J'étais étudiant en sciences politiques à l'époque. Et c'était vraiment donc, le 28 août, c'était juste avant la rentrée. Et donc, on arrive à la rentrée scolaire à Sciences Po à Toulouse. Je devais être en deuxième ou troisième année. Et donc, il y a toujours le discours du directeur de l'école qui vous dit « Voilà, vous allez travailler dans les cabinets ministériels, etc. » Et il y avait cette dissonance des postes qu'on nous proposait d'avoir plus tard face à ce ministre de la transition écologique qui lui démissionnait parce qu'il considérait qu'en tant que ministre, il n'avait pas suffisamment de pouvoir. Et je me suis dit, si même le gars qui est censé être au poste le plus impactant sur les questions écologiques dit qu'il n'a pas assez de pouvoir, c'était un petit coup de déprime assez important. Et c'est là où je me suis engagé dans le mouvement climat à fond, dans différentes associations, et notamment une association que vous connaissez sûrement qui s'appelle Extinction Rebellion, donc Extinction Rebellion. Avec la désobéissance civile, qui est une pratique que j'ai beaucoup faite en étant très vite désabusé vis-à-vis des manifestations et des rassemblements que j'ai organisés et qui me semblaient un peu vains à certains endroits. D'où la désobéissance civile non violente qui me paraît être un mode d'action nécessaire à plein d'égards et peut-être pas suffisant. Et on y reviendra, savoir est-ce qu'il faut aller plus loin, est-ce qu'il faut parler de sabotage, de démantèlement, de désarmement. Je pense que c'est des choses dont il faut qu'on parle aussi un peu. Donc je vais peut-être avoir la casquette un peu du radical du groupe aujourd'hui, mais je l'apprends avec grand plaisir. Et voilà, et je fais aussi d'autres choses, notamment j'ai monté un collectif d'artistes qui s'appelle Le Bruit qui court, dont on parlera peut-être un petit peu, qui essaye de mettre plus d'art et de joie dans nos luttes pour aussi toucher un public plus large. Donc comment est-ce que moi, en tant que danseur à côté, j'arrive à toucher un public plus large grâce à des performances ou des pratiques artistiques au service de nos luttes. Ça te va ?
Merci Max. Bon. On va passer à Bella, si tu peux nous raconter, merci, toi, d'où vient ton engagement.
Thanks so much for coming, everyone.
Merci d'être tous venus aujourd'hui.
Preface it with an apology that I'm doubling the time you have to listen to me because I have to translate everything.
Donc désolé parce que vous allez devoir m'entendre deux fois plus longtemps parce qu'il y a la traduction.
But I started becoming engaged when I was about 11, 12.
Donc j'avais 11-12 ans quand j'ai commencé à être engagée.
And I started, so some of my young new friends down here are in a similar sort of area that I was at that time. And I started because I watched a video about palm oil and the effects on orangutans.
Donc elle a rencontré des jeunes de Chambéry et des alentours vendredi dernier lors du visionnage. Et elles ont, ces jeunes femmes qui sont devant, certaines ont le même âge qu'elle quand elle a débuté et ont commencé des actions autour de l'huile de palme, exactement comme elle, quand elle avait 11-12 ans.
And before then, I had been in love with wildlife. So I grew up, I was bringing ants and snails into the house. In every single cupboard, I would have like little jars of ants and snails, and my mum loved it.
Et jusqu'à, même avant cet âge-là où j'ai commencé à m'engager, j'étais amoureuse de la nature et je ramenais des fourmis, des limaces, des escargots plutôt à la maison, et j'avais des bocaux avec des animaux vivants, et puis j'adorais ça.
And then I watched this video and I started becoming very engaged. Sorry. I got on Twitter, which was probably a good and a bad thing, but I was becoming very politically engaged. I started learning about deforestation.
Et donc, en fait, elle a vu une vidéo, elle a commencé à s'engager sur Twitter, qui était peut-être une bonne et mauvaise chose, et elle a commencé à s'engager et puis se documenter.
And I was full of misanthropy, basically, and hatred for what humanity was doing to our planet.
Elle est passée par la phase en étant misanthrope et en se disant qu'en fait peut-être que la planète irait mieux sans l'homme. Donc elle a eu ce passage-là.
And then one day I got this message from this guy Cyril Dion on Twitter.
Donc un jour j'ai reçu un message d'un mec Cyril Dion sur Twitter.
And you guys all know, well, I assume lots of environmentally minded people here know him, but I had no idea who he was because.
Donc, je présume que la plupart d'entre vous qui sommes ouverts aux questions environnementales connaissez Cyril Dion, mais moi, quand je reçus le message, je ne savais absolument pas qui c'était.
And I showed my mom, and she was like, "Another Matt, you know, men on Twitter like sending weird messages."
Et donc, elle a montré à sa maman, et sa maman a dit, ah, "Non, encore un homme bizarre sur Twitter, ignore."
But then he came to London with a film crew, and we'll talk about this later. But over the course of 7 months of filming, the film transformed my mind to how environmentalism could be. And how it's not simply about sacrifice.
Okay. Et donc finalement, en fait, il est venu avec son équipe de tournage et c'est là où elle l'a rencontré. Et en fait, ce film, le tournage qui a duré pendant 7 mois, a complètement permis de transformer sa manière de penser et d'agir grâce à ce film.
And I mean, we need to take concrete, actionable steps, and we'll get into this later. But just to summarize it, I think there is so much. Being done, and there is so much positivity. And because it's useless trying to convince you that there's a crisis, all of you know there is. So I'm not going to sit here and list statistics.
Okay. Et je suis absolument convaincue qu'il y a tellement de choses qui sont en train d'être faites, tellement de choses qui sont possibles d'être faites. Et je ne suis pas là pour vous parler des statistiques et de la crise et tout ça. Vous êtes déjà au courant, on n'a pas besoin de ça.
So instead, I'd rather you leave feeling energized about what each of you can do in your own
Donc,
life.
Donc j'aimerais vraiment que vous repartiez énergisé, nourri par ce qu'on va se dire aujourd'hui pour pouvoir agir vous-même comme elle.
Yeah.
Alors il se passe un truc, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, il se passe un truc assez bizarre en ce moment, c'est qu'en France on a un nouveau gouvernement. Depuis quelques jours, ça c'est pas un scoop. Et en Angleterre, il y a aussi un nouveau gouvernement. Et alors à l'inverse, en Angleterre, c'est plutôt, on est passé d'un gouvernement plutôt à droite qui va plutôt à gauche. Et en France, on est plutôt en train de vivre l'inverse. Et forcément, une des questions qui, enfin a priori, pour être tout à fait politiquement correcte, une des questions que j'aurais, c'est que chacun d'entre vous, en tant que jeune activiste, comment est-ce que vous percevez ce nouveau gouvernement et surtout dans quelle mesure les politiques peuvent aider votre jeunesse à faire entendre les urgences et à agir surtout. Vas-y Max.
Donc moi quand j'ai commencé mon engagement, j'ai été très vite déçu de la sphère politique, notamment de l'impact qu'avaient les lobbies en fait et les lobbies privés sur la sphère politique. Et donc j'étais assez peu convaincu que finalement on puisse vraiment faire quelque chose à cette échelle-là. Et je suis très vite allé dans les formes de contre-pouvoir. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est celle de Geoffroy de Laganerie, qui est un prof, sociologue, et écrivain, auteur et aussi professeur de droit à l'université, et qui dit cette phrase assez juste, je trouve, aujourd'hui, qui est que tous ces étudiants de droite, alors c'est un peu schématique, mais c'est en partie vrai, ont eu tendance à aller s'investir dans les institutions après leurs études, et tous ces étudiants plutôt politisés à gauche allaient plutôt dans les ONG, le milieu associatif ou les contre-pouvoirs. Et il disait, et finalement, mes étudiants de gauche se plaignent d'être gouvernés par des gens de droite. Et je trouve qu'il a en partie raison, c'est-à-dire que moi, je me suis posé cette question de pourquoi est-ce que je me sens beaucoup plus à l'aise finalement dans des espaces de contre-pouvoir, parce qu'il y a aussi un endroit où peut-être éthiquement, je me sens plus à l'aise parce que j'ai moins de compromis à faire, je peux porter mes valeurs et mes idées d'une manière plus radicale. Et c'est pour ça que pendant quasiment une dizaine d'années, j'ai vraiment été très investi dans ces milieux-là avec les associations, les ONG. Jusqu'à récemment, avec la montée de l'extrême droite notamment, qui me fait flipper comme peut sûrement une grande partie d'entre vous ici. Et je me suis dit qu'il y a vraiment il y avait un enjeu, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec 100% des personnalités politiques de gauche aujourd'hui, pour dire les termes. Je pense que c'est plus facile de négocier en tant qu'activiste avec un gouvernement qui serait plutôt à gauche. Et donc je me suis très engagé dans la présidentielle de 2022. 2022. En disant il nous faut éviter encore une fois le duel Macron-Le Pen. Spoiler alerte, ça n'a pas fonctionné. Et donc j'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelle la primaire populaire, qui visait à réunir les candidatures de gauche et d'écologie à travers une primaire citoyenne. Si y en a que ça intéresse, je vais pas aller dans le détail de l'échec politique qui a été la primaire populaire, avec grand plaisir pour en parler. Moi, j'étais le chargé de mobilisation de cette grande entreprise citoyenne. On a quand même rassemblé quasiment un demi-million de personnes. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment réussi à faire de la politique autrement, en interne du moins, du mouvement qu'on a construit, notamment grâce à la coopération et une manière de créer un mode de militantisme politique qui soit inclusif et qui permette à chacun d'y trouver sa place. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi réconcilié avec la sphère politique, en me disant, en fait, il va falloir qu'on joue sur les deux tableaux. Et maintenant, c'est un peu comme ça que je raisonne. C'est pendant des périodes électorales, je suis chargé de campagne pour des candidats ou des candidates pour faire en sorte qu'il arrive au pouvoir. Et dès que la fenêtre électorale est terminée, je rebascule dans des zones de contre-pouvoir pour faire pression pour que ces candidats et ces candidates, s'ils ont été élus ou si elles ont été élues, puissent mettre en place ce qu'il et elle avaient promis de mettre en place. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de réussir à faire les deux et de ne pas dire la politique, ça ne sert à rien, ou les militants associatifs, vous nous faites chier, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans la politique qui disent c'est bien d'être dans le militant associatif, mais en fait, c'est dans les institutions que ça se passe. Donc, je pense que les deux sont nécessaires, qu'on peut faire les deux, c'est un peu épuisant. Voilà, donc il faut aussi trouver des moments de repos. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'alterner entre les deux, et donc je n'ai pas répondu à ta question du gouvernement.
Mais
parce que je sais pas s'il y a vraiment grand chose à en dire, voilà, à part des banalités du genre qu'est-ce qui se passe en fait, excusez-moi, mais voilà. Donc non, je suis pas du tout convaincu de ce gouvernement en place, je suis très en colère, je suis très frustré, je suis prêt à faire en sorte qu'on change de gouvernement rapidement, Et je pense qu'il y a plein de choses à faire pour ça, et notamment se mobiliser pour construire un vrai mouvement à gauche autour du nouveau Front Populaire qui doit continuer d'exister. Voilà, et donc moi, c'est ce que je fais de manière très concrète à l'échelle locale, où j'étais directeur de campagne d'un candidat du Front Populaire en Bretagne. Et là, j'essaie de porter cette dynamique du Front Populaire encore et encore, parce que c'est très difficile de garder cette dynamique-là. Je préfère être honnête avec vous, notamment sur ce qui se passe au sein du Parti Socialiste, ce qui se passe entre les différents partis de la gauche. Donc, je pense que c'est important qu'en tant que citoyen et citoyenne, on continue de faire exister ce Front Populaire-là.
It's really great that the month I moved to France, you become right wing.
C'est assez génial que maintenant que j'ai emménagé en France et pour étudier, que maintenant ça a basculé du côté droit.
But yeah, so we've just got a Labour government on the 4th of July.
Donc depuis le 4 juillet, on a un gouvernement Labour travailleur travailliste en Angleterre, au Royaume-Uni.
Before we got, so we've had for the last sort of 14 and a half years, we've had a conservative Tory government.
Donc cela fait 14 ans qu'on a des conservateurs au pouvoir au Royaume-Uni.
And lots of the engagement I was doing when I first began was sort of stereotypical protest.
Donc beaucoup de mon activisme avant était en fait juste une sorte de manifestation contre assez stéréotypée jusqu'alors.
Two things. Firstly, we were largely disregarded and ignored by the political system.
Et donc, en fait, on était souvent juste ignorés par le système politique et méprisés.
And the second is that not every young person is going to become an activist on the street. And I wanted to have forms of action that young people could take. So before the governmental switch, I was working a lot with an organization called Reserva, and it was a way for young people to get involved. In different manners.
Ok. Et en fait, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les jeunes de la rue puissent s'engager. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, Bella, ce qu'elle essaie de faire, c'est de développer d'autres moyens d'agir pour les jeunes. Et elle a notamment créé une sorte de... say the name again.
Reserva Youth Land Trust.
Reserve Youth Land Trust. Donc, c'est une sorte de réserve, fondation pour préserver des terres où elle travaille avec des jeunes partout dans le monde.
And just now, with the switch of this government, I think that there's a lot of hope for youth civic engagement, which could genuinely be listened to.
Et donc, avec ce changement de gouvernement en Royaume-Uni, pour elle, il y a vraiment de l'espoir parce qu'elle sent que la jeunesse pourra être entendue et écoutée.
And really, I have no faith in any party right now.
Mais je n'ai pas de foi dans quelques partis que ce soit. Il faut bien comprendre ça.
But to give you a quick update on what's happened since the Labour government have come in.
Mais juste pour vous mettre à jour de ce qui se passe depuis que ce nouveau gouvernement est en place depuis le mois de juillet.
They've promised, and we know what promise means.
Ils ont promis.
To go carbon neutral by 2030.
Donc devenir carbone neutre d'ici 2030.
To create a public energy company.
Pour développer une entreprise publique de l'énergie.
They've unbanned onshore wind farms.
On peut désormais maintenant faire des parcs éoliens sur terre. C'était banni jusqu'alors par les autres, les conservateurs.
And up until now, it's been obligatory to have meat served. In every single school.
Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'était obligatoire d'avoir de la viande servie dans les cantines scolaires.
And so they're looking at revoking that. And a really great guy I know called Dale Vince is looking at creating new forms of protein with grass.
Et donc, en fait, les cantines scolaires, ils vont normalement inverser cette décision. Et l'idée, c'est, il connaît même un jeune homme qui est en train de regarder d'autres manières d'amener des protéines dans les cantines scolaires. À travers de l'herbe, mais pas l'herbe qu'on fume.
We got some grass in our lunch today, ouais. So you guys are ahead of us on that. Et
au déjeuner, en fait, ils sont tous les deux végétariens. On nous a servi. À un moment donné, il y avait de l'herbe dans le plat, et donc en fait, Bella, elle a trouvé ça assez comique qu'en France, on serve de l'herbe à des végétariens. C'était vraiment quand même un signe.
But yeah, so what I wanted to say is, I think there's a big place for true youth civic engagement, and it hasn't happened yet, but we'll speak later about how I think it could happen.
Okay, et donc je pense qu'il y a vraiment une place, une très grande place pour l'engagement des jeunes aujourd'hui, et on va en parler de comment tout à l'heure.
En fait, dans un des points que tu as dit, Bella, ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il y a une réalité. Nous, on est dans notre microcosme, mais c'est encore une minorité de la jeunesse en fait qui est touchée par nos sujets. Alors moi j'aime à dire que à 25 ans ils sont 8%, à 22 ils sont peut-être 12, et que plus on va bas dans les âges, plus la pyramide, on va dire, s'élargit, parce que peut-être que la conscience. Est-ce que en Angleterre c'est la même chose? Est-ce que tu dirais que c'est encore une toute petite minorité qui est soucieuse des enjeux écologiques et de biodiversité?
Les pourcentages étaient plus élevés quand ils étaient petits.
Ouais. But the younger they are, the more nature conscious and aware they are. And as they grow and get to your age, they're less and less. So how many do you think you are?
I can't give exact percentages, but
je pourrais pas vous donner des pourcentages exacts.
Something I researched when I was writing was nature deficit disorder.
Donc une chose que j'ai, sur laquelle j'ai fait des recherches pendant que j'étais en train d'écrire mon livre, c'est nature order deficit, donc un déficit de l'ordre de la nature, du lien peut-être à la nature.
So the link between something called shifting baseline syndrome and nature deficit disorder.
Okay. Le lien entre le shift, le décalage de baseline, le syndrome de base.
French.
Sorry.
That's okay. And so there's a statistic in the UK which is used a lot, which is that 75% of young people spend less time outside than prison inmates.
Okay. Donc il y a une étude anglaise qui dit que 75% des enfants passent moins de temps dehors que les prisonniers en prison en Angleterre.
And the easy way out is saying, oh, it's technology, it's social media.
Et donc la réponse facile, c'est de dire, ah, les écrans, les enfants, ils sont derrière leurs écrans, etc.
But I think that there's a big link between the estrangement of young people from nature and the fact that nature simply doesn't exist in the forms that it should anymore.
Mais ce que Bella vous amène comme information, c'est que sa croyance, c'est, en fait, c'est pas une question que d'écran, c'est surtout, en fait, que la jeunesse aujourd'hui vit dans une situation où ils connaissent 50% de biodiversité de moins qu'il y a 50 ans. Donc en fait, il y a moins de il y a moins de biodiversité aujourd'hui. Donc c'est aussi normal qu'il y ait moins ce lien avec la nature.
And those of you, so my dad tells me this story, and those of you who are slightly older can agree or disagree that when he was younger, he would drive along a country road with your headlights on, and there would be bugs all over the windscreen.
Donc mon père adore, vous raconter cette histoire, et ceux qui sont plus âgés doivent se reconnaître dans ces histoires-là, de quand il conduisait sur la route avec les lampes, les phares allumés, les feux allumés. En fait, le pare-brise était couvert d'insectes.
And the large-scale decimation of our biodiversity, and that this isn't just in the Amazon, in Malaysia, in Indonesia, this is in France and in England, we've decimated much of our wildlife and yet we still point fingers.
Ok, et donc l'effondrement massif de la biodiversité que nous connaissons et qui n'est pas que en Amazonie et ailleurs dans les autres pays qu'il vient de citer, c'est aussi chez nous.
And if we want young people to feel connected once again to nature.
Et si nous voulons que les jeunes se sentent reconnectés à la nature aujourd'hui et au vivant.
We can't just take away phones, we actually need to offer something better outside, and that is true nature to be entered into rather than simple stretches of grass that we call parks, that we call nature.
Et c'est pas simplement le fait d'enlever les écrans aux jeunes, il faut qu'on leur offre une alternative, il faut qu'on leur offre de la biodiversité, et appeler des parcs avec une pelouse parfaite, etc., c'est pas de la biodiversité, c'est pas ça l'alternative.
Merci beaucoup. Maxime, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur la manière dont plus ça va, plus les jeunes sont peut-être, on va dire, sensibles et actifs, ou si on passe à autre chose.
Moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est... moi, je pense que c'est important. J'imagine que la majorité des gens qui sont présents dans cette salle sont plutôt des gens qui sont engagés ou conscients des enjeux écologiques et sociaux. Je pense que c'est important qu'on se dise entre nous qu'on est minoritaire. Je pense que c'est important qu'on se dise qu'il y a une bataille qui est en train d'être menée, notamment une bataille culturelle, et qu'on est en train de la perdre pour le moment. Et je pense que c'est important d'avoir cette lucidité-là, parce que, notamment, il y a un récit médiatique qui est construit autour d'une jeunesse engagée pour le climat, qui a été très importante et qui existe. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés, il y a eu des grèves pour le climat, moi j'en ai fait partie, et ça existe. Mais je pense qu'il faut qu'on soit lucide sur le fait qu'il y a aussi une grande partie de la jeunesse qui n'est pas engagée aujourd'hui. Qui continue de consommer des marques, qui continue de pas avoir le problème avec le fait de manger de la viande, qui a envie de partir en avion plusieurs fois par an si c'est possible, dont le modèle, c'est plutôt le modèle des influenceurs qui font des partenariats avec des marques et qui consomment à outrance. Et donc je pense que c'est important de se dire ça pour avoir un constat sur lequel on est lucide, pour ensuite ajuster nos moyens d'action et trouver des réponses à ces problèmes. Et moi, je pense que sur la question de la jeunesse, sur l'éco-anxiété, par exemple, il y a quelque chose de très paradoxal sur lequel il faut qu'on soit à l'aise de parler. C'est qu'il y a aujourd'hui plus d'un Français ou une Française sur deux qui se dit éco-anxieux et éco-anxieuse. Mais qu'est-ce qu'on met derrière cette éco-anxiété réellement ? On va y venir. Qu'est-ce que les gens ressentent réellement ? Et en quoi ce ressenti-là, il est aligné avec des actions derrière qui sont vraiment à la hauteur des enjeux ? Moi, je suis pas trop pour culpabiliser l'individu dans ses choix de consommation, etc. C'est pas du tout mon propos. Je pense juste que c'est important qu'on se dise qu'aujourd'hui, on n'est pas collectivement à la hauteur des enjeux et individuellement probablement pas non plus. Et je pense que c'est important de se le dire pour ensuite mettre des modes d'action qui sont suffisamment radicaux pour pouvoir faire changer le système.
Tu me tends le micro pour parler de ça. Heidi Sevestre, à la fin de la conférence, je ne sais pas si vous avez écouté la très chouette conférence sur les glaciers. On a eu une question justement sur cette éco-anxiété. On a parlé de Solastalgie et de notre ami australien qui a écrit le livre. Quand on a commencé à bosser ensemble sur le livre « Vivre avec l'éco-anxiété » et qu'on a fait le choix délibérément de rayer éco-anxiété pour aller vers écolucidité et pour aller vers politico-anxiété, peut-être que tu peux nous partager ce chemin et pourquoi aujourd'hui, avec Tanguy, à l'âge de... Vous avez 28 ans, je crois, tous les deux maintenant, puisqu'ils n'ont plus droit au TGV Max, donc ça doit être ça. Et pourquoi
ça coûte cher de les faire venir.
Ouais, ça coûte cher de faire venir maintenant, bon, de les faire voyager. Pourquoi est-ce que c'est de la politique anxiété ? Pourquoi c'est ça le terme aujourd'hui qui vous semble le plus adapté à ce que vous ressentez ? Peut-être définir ce qu'est la solastalgie ouais. aussi,
en gros, en deux mots, tout à l'heure. Donc en deux mots, moi j'estime que le terme éco-anxiété a été très utile, notamment pour nommer quelque chose qui se passait, notamment chez les jeunes, mais pas que. Encore une fois, pour moi c'est très intergénérationnel, c'est toutes ces émotions qui sont dites négatives par ailleurs, mais qui ne le sont pas forcément, qui sont liées et qui sont charriées en gros par la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et ça c'est un enjeu de santé mentale qui est majeur et je suis... Vraiment atterré par le manque d'intérêt qu'on porte à cette question. Il y a un enjeu de santé mentale chez les jeunes lié aux questions d'éco-anxiété, mais pas que, aux questions de dysphorie de genre, aux questions qui sont liées aux questions LGBT, au rapport à la famille, au rapport à la scolarité, au harcèlement. Quand on commence à mettre le nez, notamment en travaillant avec Tanguy sur ces questions-là, avec des psychologues, quand on commence à mettre le nez dans les questions de santé mentale chez les jeunes, je vous assure que les chiffres sont ahurissants, notamment sur les questions de l'augmentation du taux de suicide, notamment chez les jeunes filles. Enfin voilà, c'est des sujets qui, moi, m'ont beaucoup... surpris quand j'ai mis vraiment le nez là-dedans. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ce terme d'éco-anxiété, je pense qu'il a été utile pour révéler quelque chose qui se passait. Après, nous, ce qu'on fait dans le bouquin, c'est qu'on le déconstruit. Parce que l'anxiété, déjà, c'est une émotion parmi toute la palette d'émotions qui est ressentie. Et si vous avez la chance d'aller voir une personne de type psy, par exemple, pour vous accompagner, ce que moi, je fais, un des premiers conseils qu'on vous donne, c'est essayer de comprendre les émotions qui vous traversent. S'il y a des personnes qui se sentent anxieuses ou éco-anxieuses dans la salle, vraiment, un des premiers conseils que j'ai envie de vous donner, c'est simplement essayer de faire la différence entre tout ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Quand est-ce que vous êtes triste ? Quand est-ce que vous êtes en colère ? Quand est-ce que vous êtes coupable ? Vous vous sentez coupable ? Tout ça pour vraiment essayer de éclaircir un peu le brouillard qui peut se passer dans votre tête. Or, un seul mot pour définir la diversité de ce qu'on ressent, c'est continuer à mettre un peu de brouillard dans notre cerveau et dans notre esprit. Ensuite, donc c'est pour ça que nous, on parle plutôt d'éco-lucidité avec Tanguy en disant que non seulement c'est une variété d'émotions et qu'en plus, on considère que ces émotions, elles sont saines dans un système qui est malade aujourd'hui. Et donc, je le répète encore une fois, si vous ressentez des émotions qui sont fortes par rapport aux enjeux climatiques aujourd'hui, c'est normal, c'est sain et vous n'êtes pas seul.
Et à tout âge.
Et à tout âge. Vraiment, je le rappelle. Ensuite, sur la question de l'écologie, moi, j'essaie de déconstruire aussi de pourquoi est-ce qu'on parle d'éco-anxiété. Je me suis rendu compte, et c'est notamment une définition que donne une des psychologues qui travaille sur la question, qui est Susan Clayton. Elle dit qu'en fait, ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, ce qui nous met en colère, c'est pas tant l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique. Bien sûr que c'est les conséquences, c'est les feux de forêt, ça va être les inondations, ça va être la perte de sécurité matérielle qu'on va avoir et qu'on a déjà dans certains pays du Sud et dans certaines régions en France. Mais ce qui nous met en colère, en tout cas moi, pour parler de mon vécu, c'est le manque d'action à l'égard de ça. Il y a des solutions, il y a des modèles économiques qui permettent d'intégrer les questions d'écologie, qui permettent de réduire les conséquences du réchauffement climatique et les fondements de la biodiversité, et qu'on ne met pas délibérément en place. Et moi, c'est cette anxiété-là et cette peur-là que j'ai envie de mettre en avant, et c'est pour ça que nous, avec Tanguy, on parle de politico-anxiété. Parce qu'en fait, il faut nommer les responsables à un moment donné. Il faut dire, c'est pas, oui... la jeunesse qui est malade face aux questions d'écologie. Non, c'est la jeunesse, notamment, et pas que, encore une fois, c'est une question intergénérationnelle, mais je parle d'où je viens aussi, qui est en colère face à une classe politique qui ne prend pas les décisions courageuses à la hauteur des enjeux. Et ça, pour moi, c'est important de le nommer, et c'est pour ça que ce terme d'éco-anxiété, pour moi, il floute tous ces aspects-là, notamment la diversité d'émotions qu'on ressent, et de la cause de ces émotions, qui est beaucoup plus de système politique en place et la classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux, selon moi.
Could I just add a point? I think before you were talking about young people seeming like they care less about nature, but also when we're talking about politics.
Donc, je pense que tout à l'heure, on avait l'impression que les jeunes peut-être avaient moins d'intérêt par rapport aux enjeux actuels, mais quand on parlait de politique.
And I think an emotion that is veiled under anxiety or sort of inability to do anything.
Donc une émotion qui est cachée sous l'anxiété et l'impossibilité de faire quelque chose.
So political alienation, I think, is seen as political apathy.
Donc je pense que l'aliénation politique est vue comme une apathie politique.
And something which really helped me understand it recently is a model, because I kind of think quite visually.
Donc quelque chose qui m'a aidé à comprendre, c'est un modèle que j'ai vu, qui, parce que je pense visuellement.
And it's that we used to tell this story about us being subjects, the subject story.
Donc en fait, elle va vous raconter trois histoires. La première histoire, c'est l'histoire sujet.
And then the second story, which originated around the Industrial Revolution, around the rise of advertising, is the consumer story.
Donc il y a la deuxième histoire, c'est la montée du consumérisme autour de l'époque de l'industrialisation.
And now, even in the talk just before, the neuroscientist, sorry, I don't know his name.
Et juste dans la discussion qui a eu lieu ici avec le neuroscientifique.
Is talking about how, despite the news bombarding us with evidence of environmental crisis, it simultaneously bombards us with, sort of, tries to entice us with advertising.
Donc, il parlait du fait qu'en fait, même si on nous bombarde avec les nouvelles de crise climatique, de réchauffement, etc. et tout ça, on est en même temps en train de bombarder nos cerveaux avec de la publicité, consommer telle voiture, consommer ceci, cela. En fait, le cerveau se fiche.
And a story which governments pretend exists, but which doesn't exist in reality, is a citizen story.
Et donc, pour elle, la troisième histoire qui existe, c'est l'histoire des citoyens.
Which is true democratic engagement, because right now, and I speak for the majority of people who aren't politicians or...
Qui est le véritable engagement citoyen. Démocratique.
The epitome of their political engagement is voting.
Beaucoup d'entre nous vont penser que voter c'est le summum de ce que notre moyen d'action aujourd'hui politiquement.
And I really have faith in creating new democratic structures. And
et donc Bella elle a vraiment la foi dans notre capacité à créer de nouvelles manières d'agir démocratiquement.
And then some people may come back and say, oh, but we tried this and they failed. We tried it in the UK, we've tried it in France with citizens' assemblies.
Donc, on va peut-être vous dire que, ouais, mais on l'a déjà essayé en France avec la Convention citoyenne pour le climat ou en Angleterre ou ailleurs et que ça n'a pas marché. Ou que,
Because the policies weren't implemented in the way that they were promised.
Et on va vous dire que ça n'a pas marché parce qu'en fait, on n'a pas mis en œuvre les décisions de la Convention citoyenne.
But I think, you know, democracy is not one act, it's a muscle which we have to continually practice.
Ouais. Et donc elle pense que en fait c'est pas juste parce qu'on l'a essayé une fois qu'il faut abandonner. C'est comme un muscle qu'il va falloir constamment exercer pour le mettre en place et que c'est pas parce qu'on a perdu cette première bataille avec la Convention citoyenne et que les mesures n'ont pas été appliquées qu'il faut dire que c'est condamné. Il faut continuer avec ces mesures démocratiques et essayer de les faire passer.
And people are feeling apathetic because right now you're being told the biggest thing you can do is to stop, it's to stop consuming, it's to stop buying things. Mm. But I think the biggest thing that we can do is to look forward and to look at the change we want.
Et donc beaucoup de gens se sentent sans énergie, apathiques parce qu'en fait on vous dit ouais, il faut arrêter de consommer, il faut arrêter de faire ceci, il faut et mais en même temps, ce que Bella vous invite à faire, c'est de regarder là où vous pouvez agir.
And that's not by telling people stop doing this, it's by saying what world do you want to see and how are you going to be part of creating it.
Ouais. Et c'est pas en vous disant arrêtez de faire ceci que ça va marcher. C'est surtout en disant voilà ce que vous pouvez faire pour créer ce monde d'après, la société dont on veut.
Bon, parce que cette table ronde est quand même un tout petit peu préparée. je vais rebondir parce qu'on en a parlé ensemble ce midi. Moi, j'ai eu la chance de faire mon mémoire de recherche de fin d'études sur la Convention citoyenne pour le climat dans le cadre de mes études. Et. Je rejoins ce qu'elle dit, notamment sur cette super expression que tu as dite, que j'ai notée, qui est vraiment le fait que la démocratie, c'est un muscle qu'on doit entraîner. Et donc, c'est une question qu'on a beaucoup posée, notamment à Cyril Dion, qui est à l'impulsion de cette Convention citoyenne pour le climat, de est-ce que c'est un échec ? Et est-ce que finalement, vous avez fait le jeu du gouvernement Macron en mettant en place cette Convention citoyenne qui lui a donné un peu un aspect, lui, de président démocratique qui met en place la première Convention citoyenne pour le climat dans la 5e République ? Et qui finalement derrière en fait ne prend aucune des mesures ou très peu et détricote les 149 mesures qui avaient été votées à l'unanimité par les 150 citoyennes et citoyens de la convention. Moi je continue d'appuyer sur le fait, pour avoir suivi ce processus pendant quasiment un an et demi, que c'est une victoire énorme de ce qui a été vécu, vraiment. C'est-à-dire que tirer au sort 150 citoyennes et citoyens représentatifs, basés donc de la représentation basée sur 6 critères différents, qui ont délibéré à ce niveau-là d'intelligence collective pendant quasiment une dizaine de sessions, enfin vraiment, moi, j'en ai pleuré. C'est-à-dire que la session 8 à laquelle j'ai assisté, il me semble, c'était des moments où on voit vraiment les citoyens qui ont été tirés au sort, qui ont été formés par des gens comme Valérie Masson-Delmotte ou d'autres scientifiques, qui émergent dans leur cerveau un propos politique, qui arrivent à se décentrer de leur propre situation, en votant pour des mesures qui vont être contraignantes pour eux, mais qui ont conscience de l'intérêt général qu'il y a derrière. Franchement, c'était, j'en ai encore des frissons, c'était vraiment super beau, quoi. Et je pense que vraiment, il y a de l'avenir dans notre système politique, dans des choses comme ça, dans la démocratie participative et délibérative, dans le tirage au sort, qu'il faut continuer à appuyer, vraiment, parce que je pense qu'on voit les limites de la démocratie représentative qui ne représente pas encore une grosse partie de la population. Et donc, je suis content que tu parles de cette convention, parce que vraiment, pour moi, c'est un outil qu'il ne faut pas rejeter sous prétexte que Macron en a fait ce qu'il a voulu. Il y a un vrai problème sur les enjeux de démocratie participative, je vous l'accorde, qui est le lien avec la décision. C'est comment est-ce qu'on implémente ce qui ressort de ces espaces et qu'on ne reste pas dans des dispositifs consultatifs, qui est ce que la France fait de mieux, c'est-à-dire des consultations à tout va, depuis la création, notamment de la Commission nationale du débat public, qui a été créée en 95 par Barnier, il faut quand même le dire, la loi Barnier de 95 qui met en place la CNDP, c'est notre Premier ministre actuel. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Je pense qu'on peut aller au-delà de la consultation, il faut qu'on travaille sur ce lien à la décision. Et pour ça, je vous renvoie vers des travaux qui sont faits notamment par Loïc Blondiot, qui est spécialiste des questions de démocratie participative, qui montrent qu'on peut aller plus loin et qu'il faut forcer les élus à accueillir ces espaces de démocratie participative. Et dernier exemple très concret pour aller sur des choses qui peuvent vous inspirer et vous donner un peu une imaginaire de ce vers quoi on peut aller en termes de processus démocratique, c'est l'Assemblée citoyenne décisionnaire de Poitiers, qui a été mise en place l'année dernière. Et c'est la première fois à l'échelle d'une mairie en France que des citoyens prennent une décision à la place du conseil municipal, ce qui est par ailleurs anticonstitutionnel. Et c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas inscrit dans notre loi en France et qui a été réfuté par le préfet à Poitiers. Et donc la mairesse a été en procès contre le préfet pour avoir mis en place une assemblée citoyenne décisionnaire. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des choses à faire et on n'est pas perdu et la démocratie participative peut nous aider.
Donc ils se sont rencontrés récemment, hein, puisque on a déjeuné ensemble. Alors c'était assez rigolo parce que Maxime est allé en Malaisie. Il a découvert les désastres de l'huile de palme. Et puis Bella a aussi été sensibilisée à cette question. Et en fait, j'ai envie de vous demander, entre boycotter et faire évoluer le modèle, hein, en quoi est-ce que vous croyez l'un et l'autre ?
I think this, yeah. Well, firstly, I just want to say I think it's a waste of time in environmentalism when two people who are ultimately in the same field argue. But
attends, je suis assez chose. Sorry. Non, parce qu'en fait, on se questionnait. En fait, avec Maxime, on fait beaucoup d'échanges, etc., etc. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est quand les gens sont pas d'accord parce que ça fait progresser le débat. Par exemple, j'ai animé un débat sur est-ce que l'agriculture de demain doit être paysanne ou numérique ? Et forcément, on s'amuse parce qu'on a la FNSEA d'un côté, Marc Dufumier de l'autre, et donc on commence un peu à s'exciter, voilà, sans se taper dessus. Bon, et là, forcément, on a deux jeunes activistes qui sont d'accord, qui sont pour le même combat, pas de la même origine. Et donc, c'est quand même intéressant parce qu'ils ont une approche par rapport à la question que j'ai posée qui ne va pas être la même. Et donc, c'est intéressant de voir que nous avons un gradient des possibles. Et une approche, et donc Bella, elle rigole en disant, mais en fait, on n'a pas de débat entre nous puisqu'on est d'accord. Voilà, je referme la parenthèse.
Okay. Okay. I think it's a really good microcosm of the problem within environmentalism.
C'est un très bon exemple du microcosme dans à l'intérieur du milieu de l'environnemental.
Because as I said, the very first thing I ever did was go into school and give a speech to everyone saying boycott palm oil.
Donc la première chose que je, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai faite en tant que jeune activiste, c'était d'aller à l'école et faire une présentation pour demander aux autres élèves de boycotter l'huile de palme.
And the biggest problem is people who are so dogmatic that they can't recognize when they've done something wrong and then not change it, I think. And
Donc quand en fait on a une posture très dogmatique, en fait on est dans la possibilité de changer de posture ou d'avis.
Because I've spoken to people since and I was so like I was trying to be so public with the need to boycott palm oil.
Et j'étais tellement, je voulais vraiment être devant le public et parler publiquement de cette affaire de boycotter l'huile de palme.
And I made a little documentary and I spoke to palm oil smallholders in Borneo.
Et donc j'ai fait un mini documentaire en parlant, en interviewant des petits fermiers cultivateurs d'huile de palme au Borneo. En Indonésie, ouais.
And I called a woman called Birute Galdakas, who's a primatologist who's been living in Borneo for 40 years working with orangutans.
Donc elle a appelé une primatologiste qui a travaillé depuis 40 ans en Borneo, je vais pas redire le nom.
And they basically said palm oil is 10 times more productive than any other vegetable oil, so the yield per hectare is a lot higher.
Donc en fait ce qu'ils lui ont expliqué c'est que apparemment l'huile de palme serait 10 fois plus productif en termes d'huile végétale que toute autre huile végétale sur un hectare.
So if we as activists go to our government and say boycott palm oil.
Donc si nous en tant qu'activistes on dit à notre gouvernement de boycotter l'huile de palme.
Without considering the alternative that would replace it, which is actually more detrimental.
Sans prendre en considération l'alternative qui le remplacerait, qui serait peut-être et probablement plus impactant négativement.
I think it's actually selfish because it's a way of consoling ourselves that we're doing something without realizing that on the ground we're causing more harm.
Donc je pense que c'est un moyen pour nous de nous consoler, de dire qu'on est en train d'agir, mais sans prendre en compte en fait toute la chaîne d'impact.
And you know, today, for the first time, I heard a statistic that you have 44,000 farmers in France going down in the next decade to 20,000.
Donc elle a entendu une statistique aujourd'hui concernant la France, c'est qu'aujourd'hui on a
440 de 400 000 paysans en France qui ont leur exploitation, je ne parle pas des salariés, à 220 000 d'ici à 2030, ils sont en âge de partir à la retraite. Donc on perd quasiment 50% de nos paysans dans les 6 ans qui viennent.
So rather than looking at something in black and white, we need to join up the dots and think, okay, the issue lies. We need to incentivize farmers in our own country and look at agroecology here.
Et donc, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas voir les choses en noir et blanc. Il faut connecter les points, les pointillés. Et il faut regarder la situation agricole en France et permettre de l'agroécologie dans nos fermes ici.
Because if we're eating less, we're having to import less and we're eating less processed foods, there'll be a lower demand for palm oil.
Et donc si on mange plus localement et on mange moins de nourriture industrialisée, processée, en fait, on aura recours à moins d'huile de palme automatiquement.
So essentially, I think something really important is I've said so many wrong things in the last 10 years, especially when I was like 12, 13, and just saying, immediately voicing any emotion I felt.
Et donc, je vais vous partager aujourd'hui que ça, dans les 10 dernières années, j'ai dit énormément d'erreurs, de choses qui étaient erronées en tant qu'activiste et je...
But you know, if we're genuinely wanting to create something better, we need to start making change. And then if we do something wrong, fine, it goes wrong. If grass doesn't turn into protein, fine, but at least we've tried.
Et donc, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que même si on fait des erreurs, c'est pas grave, on a essayé. Et c'est en essayant et en faisant des erreurs qu'on va trouver des solutions. Et peut-être que ça va pas marcher, mais c'est pas grave, au moins, on est en train d'essayer aujourd'hui.
But let's really look at the nuance and the gray area rather than just sort of making sweeping statements because it makes us feel better about what we're doing and it makes us feel like we're doing something.
Sorry.
So let's look at the nuance and the gray area rather than sort of taking a side because it makes us feel like we're doing something.
Okay. Taking a side makes you feel like you're doing something. Yeah. Okay. Donc ce qu'elle est en train de dire, c'est...
No, I mean, let's not do that.
Let's not take sides, yeah. Donc elle dit ne prenez pas parti. Essayez de regarder les nuances de gris, essayez de regarder les zones ombragées, parce qu'en fait, quand on prend parti pour quelque chose un peu noir et blanc, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on se fait du bien, mais est-ce qu'on est vraiment en train de faire du bien ? C'est ça son questionnement aujourd'hui qu'elle vous apporte.
Alors Max, on boycotte ou on essaie de changer le système ? Qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'as découvert ça en Malaisie ?
Non, oui, bah moi, alors déjà, je parle d'un endroit où j'ai un rapport très émotionnel à la question. J'ai habité en partie en Malaisie, et donc il y a un pays qui est vraiment ravagé par la déforestation, notamment pour la culture d'huile de palme. C'est très compliqué parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup du modèle économique du pays, la situation économique, est basée sur l'exportation d'huile de palme. Donc c'est très compliqué d'arriver de l'extérieur avec une ONG européenne, par exemple, pour dire qu'il faut que vous revoyiez votre économie totalement, c'est pas possible, etc. Donc j'entends ce que tu dis et qu'il y a sûrement des manières de produire de l'huile de palme de manière plus raisonnée. Toujours est-il que pour construire des champs d'huile de palme, il faut déforester des forêts primaires. Donc en fait, bullshit des labels sur l'huile de palme durable qui est fait, des labels qui sont produits directement par les entreprises, qui s'auto-attribuent des labels en fait d'huile de palme durable. Donc c'est vrai que moi j'ai un rapport là-dessus qui est une forme qui est empreinte de méfiance en fait envers toutes les entreprises qui je suis pas fan de la RSE. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. C'est que je suis pas fan de la RSE et que je pense que
sociétal ou social des entreprises.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire
et le développement durable, tu y crois ?
Voilà, je pense qu'il y a des concepts et des notions qui font partie de l'ancien monde et qu'il va falloir abandonner. Et je pense que le développement durable en fait partie. Je pense que la RSE en fait partie. Et je pense qu'il y a des entreprises dont le modèle économique et dont la façon de construire du profit est basée sur l'extraction d'une ressource ou qui ne devrait pas avoir lieu, quoi. Et donc, en fait, je ne vois pas comment on peut faire transitionner un modèle comme la production d'huile de palme. Mais j'entends que c'est facile de dire ça, sans dire qu'à côté, effectivement, si on ne consomme pas d'huile de palme, ça veut dire qu'on consomme peut-être de l'huile qu'on va produire en Europe, mais du coup, potentiellement, qui nous nécessite des champs beaucoup plus grands. Du coup, ça veut dire d'utiliser nos terres à nous en Europe, à des endroits, donc de ne pas délocaliser. Mais du coup, qui va accepter de déforester peut-être en Europe pour construire des champs pour produire de l'huile de tournesol, par exemple, à la place de l'huile de palme. Enfin, j'entends que je suis ravi que tu amènes cette question de la nuance, parce que c'est trop facile de dire boycott Nutella, parce que...
C'est dit.
Parce qu'effectivement, il y a la question de dans quel monde on veut vivre et quel compromis on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on accepte de réindustrialiser en Europe et en France et qu'est-ce qu'on accepte de relocaliser. Donc, j'avoue que sur cette question, moi, je suis... Mais j'aime bien, c'est trop facile, mais j'aime bien dire que boycott l'huile de palme parce que je pense que c'est un produit qu'il faut qu'on arrive à se passer, pardon, et qu'il y a d'autres manières de faire. Mais après, pour moi, ça rentre dans une théorie plus large où il faudrait promouvoir avant toute forme de consommation différenciée une réduction de la consommation. Mais ça, tu l'as dit ce midi aussi, donc je sais qu'on est d'accord. Il faut qu'on réduise nos consommations quoi qu'il avant de parler de la manière dont on va continuer à consommer ce qu'on peut encore consommer, quoi.
Il y a une autre chose dont je voudrais parler. Je trouve que c'est de plus en plus difficile d'être un activiste écologique, même si on est pour, on va dire, la désobéissance civile et les actions non violentes, parce qu'on est quand même des éco-terroristes. Maxime a pas mal œuvré pour Extinction Rebellion. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la possibilité d'être engagé avec finalement la montée policière que l'on vit en France, mais que l'on vit aussi, je crois, en Angleterre? Comment est-ce qu'on peut, à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, avoir envie de s'engager quand on sait que très rapidement on peut se retrouver en garde à vue et on peut se retrouver dans une situation qui est extrêmement difficile à vivre psychologiquement?
Yeah, is that for me?
Yeah.
Just for a bit of context.
Pour un peu de contexte.
Something really scary is happening in the UK because in 2022 they brought in the police bill.
Donc en fait quelque chose de très terrifiant est en train de se passer au Royaume-Uni. En 2022 ils ont adopté une loi policière.
And essentially it provides lots of sort of ambiguous wording.
Et donc en fait ce texte contient des mots assez ambigus.
which some of you I'm sure have heard, but it's been interpreted by the police as arrest who you want, depending on whether you like what they're doing or not.
Et donc, c'est une manière d'en parler, c'est que plus ou moins, ça, la police est en train de lire ces textes en se disant, bah, en fait, on a le droit d'arrêter qui on veut, en jugeant nous-mêmes de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou pas. Donc,
And so just a few months ago, we had five Extinction Rebellion activists imprisoned. They hadn't even protest. It was a hypothetical. They just had one Zoom call.
Donc il y a cinq mois, il y a cinq militants de Extinction Rebellion en Angleterre qui n'avaient même pas fait de manif ni l'organiser. Ils avaient juste fait un appel ensemble en évoquant cette possibilité d'organiser une manifestation. Donc, c'est juste un appel évoquant l'idée.
So one of them just
Et ils ont été arrêtés.
One of them just 20 years old arrested for just over 4 years for a Zoom call.
Donc le militant de 20 ans a été emprisonné pour 4 ans juste pour avoir fait un appel Zoom.
And it doesn't matter what you think about their methodology or the protest.
Et
that is
et quoi
not
que
okay.
vous pensez de leur méthodologie ou de leur manière de manifester.
It's unacceptable.
C'est inacceptable.
So yeah, that's just for context. Sorry, what was
c'est
the question?
C'est juste pour le contexte.
Okay. La question, en fait, c'est de se dire, face à cette réalité qui est assez récente, comment est-ce que, pour se faire entendre, qu'on soit Extinction Rebellion ou une autre ONG, ou un citoyen tout simplement qui n'est pas d'accord, et en fait, un des premiers à le dire, c'était Nicolas Hulot en France, qui disait, s'il y a 2 millions de personnes dans la rue, j'aurai le poids politique pour pouvoir faire entendre ce que vous avez à dire. Aujourd'hui, on est plutôt frileux et on n'a pas envie d'aller dans la rue et c'est quand même très inquiétant. Qu'est-ce qui nous reste finalement ? Est-ce que tu penses qu'on peut continuer, dans ton pays en tout cas, à faire des manifestations et à donner notre avis, en fait, tout simplement, à travers ça ?
I think one of the most important things we can do... Well, I'm just speaking about England, sorry.
Donc, je vais parler que de l'Angleterre, du Royaume-Uni.
Is spread widespread outrage about this bill because
donc il y a une colère générale à propos de cette loi qui est passée.
And people really feel like they can't even do this because you can't protest against the inability to protest. So it has to be on social media right now because people are terrified.
Donc les gens sont terrifiés de faire des manifs et on peut pas manifester dans la rue contre cette idée de on a plus le droit de manifester. Donc en fait la contestation a lieu sur les réseaux sociaux actuellement.
And at the same time, lots of young people I'm working with who aren't protesting are finding other avenues of creating change.
Donc il y a avec les jeunes avec qui elle travaille en fait qui ne vont pas aller manifester, ils sont en train de développer d'autres avenues pour provoquer le changement et créer d'autres moyens.
Shall I go into that or okay. Yeah, so with Reserva Youth Land Trust we have
donc avec son organisation
over 100 young people from over 30 countries.
Donc on a 100 jeunes de 30 pays dans le monde.
And these are all young people who either feel discomfort right now protesting, but see the state of nature and want to make a difference.
Donc la plupart, un certain nombre d'entre eux, en fait, voient les dégâts sur la biodiversité qui est en train de se passer, mais en même temps ont trop peur de faire des manifs.
So everyone under 25 is working together and on 3 projects, one in Ecuador, one in Panama, and one in Colombia.
Donc ils travaillent sur 3, donc tous les jeunes de moins de 25 ans sont en train de travailler sur 3 projets dans 3 pays, Équateur, Panama et
Colombia.
Et la Colombie.
And lots of the young people are working with local organizations in those 3 locations.
Et ces jeunes sont en train de travailler avec des organisations locales dans ces pays.
So just briefly in Ecuador we've completed the first project of creating a reserve because it was about to be bought from the local person who was selling it to a mining company.
Donc il y avait une personne locale qui était en train de vendre ses terres à une compagnie minière et en fait finalement c'est cette fondation sa fondation avec les jeunes qui ont acheté les terres pour les préserver et c'est devenu une réserve en Équateur.
And now the funds have been raised by everyone under 25 and it now belongs to Ecominga, a local conservation charity full of students at university who are biologists, ornithologists.
Et donc ça a été acheté par une ONG avec des étudiants dans les différents domaines de la biodiversité, biologie, entomologistes, etc. Et en fait, donc c'est grâce aux fonds levés par les jeunes de moins de 25 ans partout dans le monde, en fait, cette association locale a pu se procurer ces terrains pour les protéger.
Yeah, and the other one in Panama is young people raising money to put tags on turtles, and the data gathered from that is then used to create an MPA, which is a marine protected area.
Donc l'autre projet au Panama, c'est pour mettre des étiquettes sur les tortues, et l'idée c'est pouvoir en fait identifier où se déplacent ces tortues pour notamment créer une réserve marine autour de cette espèce.
Because the turtle, sorry, am I just rambling on? Can I tell you one just really great thing?
Je peux vous raconter encore une histoire.
The turtles are seen by so the Guna community. Lots of the young people we're working with in the Guna community see the turtles as sacred in the area.
Et donc en fait, la communauté, les communautés locales en fait voient ces tortues comme sacrées.
So being able to provide scientific evidence as well of this keystone species.
Et donc aider à fournir des données scientifiques pour cette espèce clé.
Creates sort of a bridge so that the government and the Guna community can work together.
Crée un pont pour que le gouvernement et cette communauté locale puissent travailler ensemble.
And then decide what to do with this MPA rather than allowing it to be trawled illegally or and which sort of legal implementation to assign to this MPA.
Donc ce qui va permettre
MPA is Reserve Marine.
Reserve Marine. Donc c'est en fait ça va permettre en fait à cette communauté et le gouvernement de décider ce qui va devenir de cette réserve aérienne protégée marine et ils vont le faire ensemble.
Mm-hmm. So I mean politically people are terrified. There are other ways for young people to take action while simultaneously fighting back against the political limitations which we okay. see right now.
Donc il y a d'autres avenues pour agir aujourd'hui et c'est ce que les jeunes sont en train d'utiliser et d'emprunter, ils sont en train de créer ces voies, mais en même temps on est terrifié mais on continue de combattre en fait cette montée des restrictions des libertés qui sont en cours.
Max, qu'est-ce qui se passe dans le domaine
En France.
Oui, enfin, pour les jeunes écologistes engagés, est-ce qu'ils vont toujours sur les pistes d'Orly pour empêcher les avions de décoller ?
Ça arrive parfois.
Est-ce qu'ils sabotent les usines Lafarge avec les soulèvements de la terre ?
Ça arrive parfois aussi. Moi, je pense que déjà, et tu l'as dit, mais c'est pour continuer d'aller dans ton sens, je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être activiste et que... malheureusement, quand on mène des actions, notamment tout ce qui est désobéissance civile, on a tendance à voir les personnes qui sont arrêtées et on ne voit pas tout l'écosystème et tout le groupe d'activistes et des personnes qui travaillent au fait que ces personnes aient pu faire l'action. Et donc je le rappelle parce que je trouve que c'est hyper important que chacun et chacune d'entre vous et de nous se sentent inclus dans ces mouvements-là. Il est possible de venir participer à ces actions-là sans être les personnes qui prennent des risques juridiques ou des risques physiques. Parce que c'est des mouvements qui ont vocation à être inclusifs et qui proposent des rôles pour chacun et chacune d'entre vous. Donc il est possible d'être... derrière son ordinateur à faire la communication sur les réseaux sociaux, il est possible de faire à manger pour les personnes qui sont présentes et présentes sur les actions, il est possible de gérer la logistique, de gérer tout ce qui est les aspects psychologiques aussi, parce qu'il y a souvent des équipes soins qui prennent soin des activistes et des personnes, des espaces d'écoute, etc. Donc il y a plein de rôles en fait. Quand on voit un ou une activiste qui est arrêté par la police, derrière il y a une dizaine de personnes qui a fait en sorte, en termes de construction de l'action et de construction du mouvement, qui a fait en sorte que cette action soit possible. Et donc ça, c'est un peu le biais qu'on risque d'avoir souvent, mais en gros, notamment dans la période actuelle, effectivement, de durcissement des arrestations et du lien qu'on peut avoir avec la police, je pense que c'est important de dire qu'on n'est pas tous et toutes obligés d'y aller et qu'il y a des gens aussi pour qui c'est plus compliqué. Et je pense aux personnes racisées, aux personnes qui sont pas forcément totalement valides et qui ne peuvent pas s'impliquer juridiquement ou physiquement pour ces questions-là. Et je pense que c'est important de dire qu'elles ont toute leur place. Donc ça, c'est pour le dire. Après, effectivement, sur la partie éco-terroriste, durcissement des lois, je ne vais pas refaire ce qui s'est passé avec le ministère de l'Intérieur récemment et ce qu'on vit sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui d'agir. On l'a vu notamment au village de l'eau avec les soulèvements de la terre dernièrement, sur la capacité de faire des actions qui nous semblent à la hauteur des enjeux et le grandissement de la répression policière. Et je peux comprendre que ça crée aussi une forme d'apathie chez pas mal de personnes qui se disent en fait, est-ce que vraiment j'ai envie de me confronter à ça et je trouve ça dramatique parce qu'en fait, ça réduit notre liberté d'expression, notre liberté d'action. Et je pense que c'est important qu'on se pose la question que la place aujourd'hui, que la police prend aujourd'hui comme place et les dérives autoritaires qu'on peut avoir dans un pays dit démocratique comme la France.
Bella aimerait beaucoup que les jeunes qui sont devant témoignent. leurs actions?
Alors, il faut qu'elles en aient envie. Alors, il nous reste un quart d'heure, les amis, parce qu'après, on a un train pour rentrer sur une ville qui s'appelle Paris pour certains et un train de nuit pour aller à Toulouse pour ma part, si je loupe pas la connexion. Et qu'on voudrait garder quelques minutes pour signer les 42 livres que vous allez acheter pour offrir à tous vos entourages à Noël. Est-ce que vous voulez témoigner, mesdemoiselles? Allez, vas-y, go. Que se passe-t-il à Chambéry quand on a 12 ans?
Alors, par où commencer? Qu'est-ce qui se passe à Chambéry? Eh ben, y a un collectif qui s'est monté en 2023, ou début 2024, je ne sais plus trop, qui s'appelle Les Jeunes à Impact. C'est un collectif de jeunes qui veulent s'engager, qui ne savent pas trop quoi faire, enfin, pour la plupart. Et ça s'organise autour du bassin chambérien, mais pas que. Et du coup, on se réunit des fois pour faire des actions, ou pour discuter des choses qu'on pourrait faire, voilà. On organise des réunions, on a déjà fait plusieurs clean walks, quelques clean and swim, qui sont des clean walks dans les rivières. Et...
En français, c'est-à-dire c'est nettoyage de rivières, c'est ça? Oui,
et on a aussi fait un Impact Day le 7 juin, où il y avait un stand discuté avec... bref, c'était des petits stands. Et un stand disco jus. Et puis on interrogeait les gens dans la rue. Voilà.
Et si je peux juste rajouter, parce que vendredi, Bella a pris du temps avec ses jeunes à Impact au cinéma Malraux, un temps spécial. Et en fait, ce que moi j'ai réalisé au cours de l'année dernière, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient envie d'agir, mais ils étaient isolés, ils ne se connaissaient pas. En fait, ils n'avaient pas de moyens de se connecter. Et moi, je les voyais à travers les films qu'on projette, des films à impact qui inspirent. Au cinéma Malraux, et donc petit à petit je les ai connectés et maintenant ils sont autonomes, et donc moi je les appelais les jeunes à impact, et ils font leur vie. Mais vendredi Bella leur a posé la question: qu'est-ce qui vous rend optimiste et qu'est-ce qui vous rend pessimiste? Et en fait, l'une des jeunes, elle a dit: moi je suis optimiste parce que quand je suis avec vous là, ça me fait du bien, et je suis pessimiste quand je suis au collège parce que j'ai l'impression que les autres jeunes autour de moi n'en ont rien à faire. Et en fait, Bella, elle a rebondi, elle a dit: mais c'est exactement ça, l'importance de la communauté. Pour pouvoir agir face aux difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est tellement énorme qu'il faut absolument se connecter, créer communauté, trouver ses pairs pour agir dans la joie, se donner envie. Et il y a énormément de joie. À chaque fois que je prends une photo des jeunes à impact, j'ai des sourires énormes. Et normalement, demain, on fait dans la grande salle de Malraux, devant 830 élèves de lycée, de 10 établissements de lycée et collège, et on va faire un appel pour venir renforcer les jeunes à impact. Donc on espère que là, vous êtes une quinzaine peut-être, et que peut-être demain, vous allez être plusieurs dizaines, et que ça va s'amplifier d'année en année, et que quelque chose va commencer et continuer de s'amplifier. Donc bravo à vous.
Et demain matin, c'est juste une rencontre avec Heidi Sevestre. Enfin, c'est un truc un peu simple, vous voyez. Voilà, qu'on vit tous les jours. Alors, les questions maintenant. On va prendre 2-3 questions dans la salle. Et alors, je suis toujours très coercitive qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis désolée, les intervenants d'hier ont beaucoup rigolé. C'est: nous racontez pas votre vie pendant un quart d'heure, parce que ça doit être passionnant, mais posez-nous une question si c'est possible. Voilà, avec toute la bienveillance que vous pouvez imaginer.
Bonjour, ouais, j'ai la pression. J'écoute les conférences, je lis des essais. Il y a quelque chose qui transpire beaucoup, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le déficit démocratique. Or, il y a un mouvement social s'est arrêté avec le Covid, c'est les Gilets jaunes, qui avait comme principal point pour résoudre ce déficit démocratique, c'est le référendum d'initiative citoyenne constituant. Et il se trouve que des gens localement, notamment notre député de la 4e circonscription de Savoie, essaient de porter ce point à l'Assemblée nationale. Et d'autres personnes au sein du mouvement Espoiric notamment ont créé un parti pour essayer de promouvoir cette idée. Ça s'appelle Solution démocratique, donc pour que la politique soit faite par les citoyens, pour les citoyens. Voilà.
Merci de nous avoir partagé cette info. Il y a un film de François Ruffin qui sort pour comment réintégrer les riches. Je vous invite à aller le voir, je crois qu'il sort très bientôt. Je ne sais plus le titre, j'ai regardé ce matin, mais je pense qu'au boulot, c'est ça, voilà, au boulot. Je pense qu'on va rigoler un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Si Catherine peut, voilà, ici.
Oui, bonjour, merci pour vos interventions et votre enthousiasme. Une question par rapport aux jeunes et par rapport à l'éducation nationale et aux informations qui pourraient être données dans les collèges et lycées. Est-ce que dans vos organisations respectives, vous avez un pôle, je dirais, relation avec les instances scolaires qui vous permet de faire des informations, d'organiser des ateliers? Moi, je pense qu'il n'y a que vous qui vous pouvez parler aux jeunes. Nous, en tant que sexagénaires, ils nous écouteront avec beaucoup de sympathie, sans doute, mais on n'aura pas l'impact que vous pourrez avoir si des équipes de vos associations viennent. Et si ça existe, comment êtes-vous accueillis dans les établissements et par l'institution?
J'y vais rapidement sur deux choses. Venir parler de désobéissance civile dans les écoles, généralement, c'est pas hyper, pas hyper accueilli. Par contre, j'en ai peu parlé, mais en tout cas sur la partie comment est-ce qu'on retrouve de la joie dans nos luttes et comment est-ce qu'on passe par les pratiques artistiques pour pouvoir, sensibiliser et toucher plus de personnes. Donc le collectif que j'ai cofondé, qui s'appelle Le Bruit qui court, intervient de cette manière-là dans les lycées, à travers, ça va être soit des ateliers d'écriture, enfin les lycées, les collèges d'ailleurs, ateliers d'écriture, théâtre d'impro, de manière de passer par l'art pour sensibiliser. Donc ça marche plutôt bien quand on le fait. Et de manière plus personnelle, moi j'adore être avec vous, faire des conférences, des tables rondes, etc. C'est super. J'observe quand même qu'effectivement, on se parle quand même beaucoup entre convaincus souvent. Et donc moi je travaille avec un metteur en scène en ce moment sur, comme je suis danseur à côté, sur des nouveaux formats, notamment un format à travers la danse et l'art oratoire et le spectacle, pour parler de ces enjeux d'éco-anxiété, d'écologie, à travers un spectacle qui est plutôt, je dirais, adapté quand même aussi pour les collégiens, lycéens, universités. Donc ça peut être une manière de passer par d'autres formats comme ça qui peuvent être intéressants, donc on peut s'en parler après si ça vous intéresse.
Absolutely, Reserva does goes into school and speaks to people.
But donc, I would oui, notre mon organisation va bien dans les écoles pour parler.
But I would also say, ask people. Are you a teacher? Sorry, I.
Est-ce que vous êtes enseignante?
Okay. Oui. It might be nice to ask the young people who they would want to hear, because sometimes Reserva goes into schools, and the young people. It almost ends with the young people talking themselves about the projects they're doing and where they want to protect, which species they care about.
Ok, donc c'est souvent en fait son organisation va parler de. En fait, elle vous invite à surtout demander aux élèves ce dont ils vont, ce qui les intéresse pour partir de là, parce que souvent eux ils vont être invités pour parler de leurs projets, etc.
And one of the young people about 4 years ago came up with an idea called the 1 million letter campaign.
Donc l'un des jeunes qu'ils ont rencontré il y a 4 ans est arrivé avec l'idée de un million de lettres, une campagne avec un million de lettres.
So at every school Reserva went to, they would get young people would write letters, and then this would be a sort of a gateway for young people to go to conferences like COP, COP 16, the biodiversity conference, and the COP 25 and COP 26, the climate conferences.
I missed it. So the youth go to the conferences.
Yeah, and these letters were the letters, and it's a gateway to access.
Donc en fait, ces lettres sont un moyen d'accès aux conférences COP et tout ça, parce qu'en fait, les porteurs de ces lettres vont accéder avec des dessins. With the 7-year-old.
Yeah, and we've had We've had really adorable instances of 7-8-year-olds going up to delegates from their countries, giving them these letters, and because they have.
Donc parfois on a des enfants de 7-8 ans qui sont porteurs de ces lettres et qui vont donner leurs lettres avec leurs mots, avec leurs photographes et leurs dessins aux représentants des pays à ces conférences.
And it's a gateway for them to have sort of 10-15 minutes with these delegates and discuss what they want, and maybe they're the most ambitious things like have carbon-free flying cars, but at least they're having that engagement. They're at conferences and they're learning how the system works.
Et donc, ça permet. Donc, parfois, le rêve de l'enfant, la demande, ça va être d'avoir des voitures volantes qui sont carbone neutre. Mais c'est une porte ouverte pour ces enfants de 7-8 ans de parler pendant 15 minutes à des délégués de différents pays. Et surtout, ça leur permet de commencer à comprendre comment fonctionne le système. Et si je puis rajouter, si jamais vous êtes sur le bassin chambérien, vous me parlez à moi et je vous connecte. Et en fait, c'est ce que je fais pour plusieurs enseignants qui sont dans la salle. Il y en a un l'année dernière, au mois de juin, qui m'a dit « Je rêve que Heidi Sevas vienne parler à mes élèves. » Deux mois plus tard, elle est venue l'année dernière parler à 200 élèves. Cette année, elle intervient devant 830. Donc en fait, moi, bénévolement, je mobilise les lycées et les collèges Et en fait, demain dans la salle, on n'a pas des convaincus. On a des élèves qui viennent avec leur classe et certains connaissent, mais la plupart ne connaissent pas. Donc là, ce n'est pas du tout comme ici, c'est vraiment c'est parcours obligatoire.
Demain, il y a 5% de glaciologues en herbe qui vont décider de faire des études de glaciologie. C'est ça
non,
qui est super.
Non, parce que Heidi, en fait, ne demande pas à ce que tout le monde devienne glaciologue. En fait, elle leur parle d'une perte. Non, oui, mais en fait, le message de Heidi Sevest, c'est pour ça que je lui ai demandé de revenir, c'est qu'elle leur parle surtout, trouvez votre passion, trouvez ce qui vous anime et faites ça, parce que c'est ça qui aidera le plus. N'allez pas dans les emplois qui n'ont pas de sens, parce que c'est pas ça qui va aider la planète. Donc en fait, sur 2 heures, elle va parler de 20 minutes de changement climatique et tous les messages y sont, mais elle va surtout parler d'éducation, comment passer le message, et j'ai encore des places si jamais vous êtes libre demain matin, donc venez me voir.
Bonjour. Moi d'abord, je voulais dire merci beaucoup, parce que c'est la première conférence de ce week-end où j'ai ressenti autant d'émotions. C'était vraiment trop bien parce que je suis jeune, mais j'ai 19 ans et du coup, je me suis reconnue. Et du coup, c'est toujours agréable. Mais j'aime bien aussi discuter avec les gens qui sont plus âgés. Enfin, franchement, c'est toujours intéressant. Et si, les gens qui ont 60 ans peuvent toujours agir. Et en fait, moi, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, c'était en 5e. Et il y avait un monsieur qui était bientôt à la retraite qui a parlé de ça et qui a dit, maintenant, c'est fini pour moi. Moi, je ne peux plus faire grand chose, et c'est ça qui m'a vraiment convaincue. Donc si vous pouvez encore faire quelque chose, et du coup je voulais dire que bravo aux jeunes à impact, et vraiment moi j'ai que 19 ans et ça fait un an que je m'intéresse à la politique, et Léonie elle a 12 ans et déjà elle commence à comprendre c'est quoi la politique, et franchement je suis hyper surprise. Donc voilà, je voulais dire vraiment bravo. Si vous cherchez comment...
Ouais. Une petite question, non ?
J'ai une question, c'est comment vous avez fait pour passer le cap de... on va revenir sur la communication non violente, enfin l'action non violente, donc c'est pas forcément utile. Non, je voulais juste dire merci.
Merci Manon aussi à toi et tout ce que tu as fait pour les jeunes Impact.
Peut-être juste un mot sur... parce qu'on on a un peu parlé de génération en creux dans tout ça. En plus, souvent, quand on est invité dans les médias en tant qu'activiste, c'est toujours avec cette casquette de jeunes engagés, et ils nous foutent un vieux boomer en face, et du coup, ça te fait le clivage. Allez, t'as les jeunes engagés et puis les vieux qui n'ont rien compris. Et c'est un clivage qui me paraît totalement absurde. Et moi, j'essaye à chaque fois de leur dire, mais vraiment, arrêtez avec ce truc de la jeunesse engagée pour le climat et les vieux qui n'ont rien compris. Et du coup, moi, je voulais dire, parce que c'est aussi important de profiter de ce moment-là pour vous dire ça, moi, j'ai envie de remercier les personnes qui sont plus âgées que nous et qui militent depuis longtemps. J'ai un peu étudié, regardé, été inspiré par le mouvement altermondialiste des années 70, et je sais qu'il y a beaucoup de gens potentiellement dans cette salle aussi qui font partie de ces militants et ces militantes qui militent depuis longtemps. Et vous êtes des sources d'inspiration pour nous, et si on est là en tant que jeunes aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pavé le chemin avant nous, potentiellement dans des périodes qui étaient peut-être avec une répression policière qui était différente, qui était peut-être moins ou plus forte à certains moments, mais surtout avec des isolements qui étaient aussi plus forts. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir m'engager avec ce sentiment de communauté, parce que j'ai la chance d'avoir trouvé des amis et des personnes avec qui militer. Je sais qu'il y a des époques dans lesquelles il y avait un sentiment de solitude qui était encore plus fort que ce qu'on peut toujours ressentir quand même un peu maintenant. Et du coup, là, je suis vraiment très heureux d'avoir peut-être une partie d'entre vous ici dans la salle, et vous remercie pour tout ce que vous avez déjà fait, qui n'a pas été inutile et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des sources d'inspiration aussi fortes. Donc, merci beaucoup.
Et si je peux juste rajouter, la raison pour laquelle la répression policière monte, c'est parce qu'on est de plus en plus pris au sérieux. Notre génération, on était rien, on était des bouffons. En fait, moi, j'ai fait du droit pour être prise au sérieux en tant qu'écologiste. Donc, j'ai fait droit des affaires, je suis rentrée dans une multinationale pour me faire mon CV pour après devenir militante. Mais vous, en fait, la raison pour laquelle il y a une répression policière, c'est que maintenant, vous êtes une menace. Nous sommes une menace, nous sommes des éco-terroristes.
How do you know that you're being effective when they have to stop you?
Yeah. Donc, on sait qu'on a un impact parce qu'on est en train de se faire arrêter.
Un grand, grand merci à vous deux. Et merci à Shamnam, parce que c'est un exercice quand même difficile et épuisant. Et tu peux me remercier. Et donc, ils vont signer les livres aussi.
Et Et si je peux me permettre, Françoise ne s'est pas présentée, en tout cas dans cette session-là, c'est l'incroyable éditrice chez Actes Sud de plusieurs collections incroyables qui nous aident à faire, qui ont permis à tellement d'auteurs de faire passer des messages. Donc Françoise Vernet, merci pour tout ce que tu fais depuis des années.
Merci beaucoup à la régie aussi. Merci à la régie et à Catherine Moyasso. Merci beaucoup.
Vous avez aimé cet épisode ? Vous aussi essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt !